création on air.
On air.
On air. Creation on air.
Bonsoir. En ligne de mire, une expérience centrée sur la lune noire. Dans l'histoire de l'astrologie, la lune noire représente un point fictif de rotation de la lune, un non-point, un anti-point. Associée à l'inconscient, à la partie cachée de soi, à la sexualité, la lune noire a été appelée Lilith dans les années 70, alors que les mouvements des femmes apparaissaient. Si vous êtes à proximité d'un ordinateur et que vous connaissez votre date, heure, lieu de naissance, vous pouvez en quelques clics, sur blackmoonlilith.fr, découvrir votre lune noire. Création On Air, à écouter au casque, Camille Ducellier, Nathalie Salle, La Lune Noire.
Certains jours, je quitte temporairement mon corps pour aller voir ailleurs si j'y suis. Ces jours-là, mon envie de voyage défie sans culpabilité le prix des billets, les piqûres de vaccins, les contraintes de transport, de passeport et de langue étrangère. Ces jours-là, je reste bien à plat sous ma couette, les yeux fermés à demi, et j'observe le mouvement des planètes sous mes paupières, avant même de penser une seconde à me lever. Il est peut-être midi ou minuit, mais cette heure-là n'est plus à l'ordre du jour car j'ai déjà flotté jusqu'à vous et me voilà tout près.
Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Je suis là.
Inutile de vous retourner pour si peu. Je naviguerai ici et là, en marge de votre pensée, le temps qu'il faudra.
Est-ce que c'est de l'ordre du toc, ou bien j'ai la fâcheuse tendance à faire encore plus tordu que prévu ? Parmi toutes les planètes, tous les aspects, tous les signes du zodiaque, toutes les maisons astrologiques, voici un élément plus mystérieux encore.
La lune noire.
L'astrologie, c'est une façon de métaphoriser le monde en 12 énergies. Ces 12 énergies, elles vont être 12 expériences, elles vont être 12 façons d'appréhender le monde. C'est pas une vérité universelle, c'est une façon d'appréhender une porte sur soi-même.
Pour moi, l'astrologie est une langue étrangère. J'aime les planètes qui sont aussi des dieux. Nous travaillons avec Mars, Jupiter, Vénus, Mercure, et c'est aussi de la mythologie. Et j'aime aussi son côté très structuré, qui est de la géométrie. Donc il y a à la fois un côté que l'on va dire cartésien, géométrie, mathématiques, longitude, latitude, planète, donc de l'astronomie, et un côté mythologie. La mythologie, il faut connaître la vie, si l'on peut dire, des dieux avec lesquels, entre guillemets, nous travaillons, leurs qualités et leurs défauts. C'est un outil infiniment subtil.
On pourrait dire d'une manière très générale que l'astrologie, ou les symboles en général, est une grille de décodage du monde du sens, alors que les mathématiques sont une grille de décodage de la réalité objective, du monde matériel. Donc au fond, ces deux lectures sont complémentaires pour moi.
Un thème natal est un cercle de 360 degrés de circonférence. Ce cercle est découpé en 12 parties. Parce qu'en fait, il y a 12 signes astrologiques.
Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, tout ça jusqu'au Poisson.
Chaque signe comporte 30 degrés. Donc si vous multipliez 30 degrés par 12 signes, cela vous donne 360 degrés. On est dans du calcul mathématique, tout simplement. Ça, ça donne le zodiaque.
Donc le premier signe du zodiaque commence avec le printemps, ce qu'on appelle en astronomie le point vernal, qui est la rencontre entre l'écliptique et l'équateur céleste. Et ensuite, on prend de 30 degrés en 30 degrés, donc on a l'ensemble de la rotation de la Terre autour du Soleil, avec un petit décalage chaque année à cause des 365 jours. C'est un bandeau totalement imaginaire. Le découpage est symbolique puisque c'est des espaces de 30 degrés d'arc. Enfin, quand je dis imaginaire, on devrait dire imaginal. C'est tout le mystère du symbole. C'est-à-dire, pour comprendre le symbolisme, il faut poser l'hypothèse qu'il y a un monde invisible qui organise la réalité physique visible au même titre que la loi de causalité qu'on connaît en science. Donc l'astrologie et les systèmes symboliques vont nous parler de la nature de cette âme, c'est une géographie de l'âme en quelque sorte, alors que bien sûr la science va nous parler des conditions matérielles pour que celle-ci s'incarne dans les meilleures conditions possibles. Mais il faut tout de suite ajouter que la science n'a pas le monopole de la connaissance. C'est-à-dire qu'il y a d'autres voies de connaissance que la méthode scientifique.
N'ayez crainte, le dessus de votre crâne n'indique ni le jour, ni l'heure de votre naissance, mais vous basculez légèrement la tête depuis que je suis là, et vous y penserez bientôt. J'ai déjà fait le tour de la question. Il est inutile de préciser que l'horoscope des magazines réduit en quelques mots la multitude d'aspects que l'astrologie propose, et vous ne vous laisserez pas piéger si facilement.
En fait, personne n'est déterminé par son thème. Voire, je trouve ça très limite de vouloir déterminer les personnes et les gens qui se permettent de faire de la prédiction par rapport à un thème, puisque c'est complètement enfermant, cristallisant. Alors qu'en fait, c'est de la vie, c'est pas figé.
Parce qu'évidemment, l'astrologie n'est pas un système déterministe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer une logique scientifique rationnelle à la lecture astrologique, c'est une lecture symbolique. Et le symbole respecte toujours différents niveaux de sens, différents niveaux de lecture. Donc en fond, la lecture symbolique respecte la liberté humaine, alors que la lecture scientifique, elle, est causale et déterministe, donc elle ne respecte pas la liberté humaine. On pense souvent que l'astrologie est déterministe, mais en fait pas du tout, puisqu'elle montre comment passer d'un état de conscience vers un état de conscience plus subtil, plus ouvert. C'est une échelle d'élévation vers le ciel, alors que les sciences, c'est une autoroute qui nous conduit de Paris à Marseille.
Il y a des phénomènes de répétition, il y a des phénomènes de cycle. Plus on regarde ce qui s'est passé, et moins on va être en réaction. Et donc dans un thème, plus on peut dire, bah voilà, vous avez peut-être telle blessure, plus la personne va mettre de la conscience dessus. Et moins les choses vont se passer de façon inconsciente, et moins au final elle sera déterminée par son thème. Pour moi, on est déterminé quand on fait les choses de façon un peu réactive et inconsciente.
Vous êtes poisson, Camille ? Puisque votre soleil se trouve à 24 degrés 27 du poisson, ascendant Capricorne. Il a fallu le jour, l'heure de votre naissance, l'année de votre naissance, le lieu de votre naissance pour calculer tout cela. Alors après, à l'ascendant, nous trouvons quoi en Capricorne ? On trouve Neptune. Donc on est à la fois dans une imagination très fertile avec Neptune et la Lune qui sont conjoints et qui sont de ce fait conjoints à l'ascendant. Mais comme on est en Capricorne et que le Capricorne est régi par Saturne, c'est quand même un signe de terre, on est dans une lucidité. Comment dire ? L'imagination est fertile, mais vous ne partez pas dans tous les sens. Parce que le Capricorne, il est d'une très grande lucidité.
Le thème astrologique est un récit. Donc il ne faut pas évidemment le prendre comme une vérité absolue. Quand on parle de vie antérieure, ce n'est pas non plus une vérité absolue. Mais simplement, le récit sert à quoi ? Il sert à évoquer des fils de sens. Il sert à réveiller la flamme de l'âme, la flamme de l'être. Et donc ce récit, peu importe qu'il soit vrai ou pas, ce qui est important, c'est de considérer le thème astrologique ou l'acte de lire un thème astrologique comme un acte poétique. En se souvenant que poiesis veut dire création en grec. Donc, le fait de faire un récit permet de recréer l'être dans sa nature profonde et de lui redonner du sens. Maintenant que ce récit soit vrai ou pas, on n'a aucun moyen de le savoir. On ne peut pas vérifier s'il s'est passé telle ou telle chose dans des vies antérieures, etc. Tout ce qu'on peut savoir et vérifier, c'est qu'il y a des résonances avec la personne qui vient en consultation astrologique et que ça, ça éveille quelque chose au fond d'elle-même et ça lui redonne à la fois le goût des cimes et le goût des profondeurs. Donc simplement, c'est un acte de réenchantement du monde.
Les 12 planètes qu'on a dans le thème, on les a attribuées à des fonctions psychiques. Par exemple, le soleil, ça va être notre façon de voir le monde, notre conscience. La lune, ça va être nos émotions. Quand on s'éloigne de la conscience, on arrive sur le mental, on est sur Mercure. On arrive ensuite aux limites du corps, ce qui nous permet d'appréhender le monde, on est sur Vénus. Si on veut rentrer dans le monde, il va falloir agir, donc on est sur Mars. Pour entrer vraiment parmi le monde avec d'autres pingouins et les rencontrer, on arrive sur Jupiter, sur comment je vais prendre ma place sociale. Pour que mon rapport aux autres se passe bien, il va falloir des règles, donc on est sur Saturne. Parce que quand même, des fois, les règles, c'est chiant et qu'on a envie de les dépasser, de les casser, on va rentrer dans une rébellion qu'on associe à Uranus. Une fois qu'on a bien fait sa crise d'adolescence et que peut-être on peut passer à autre chose et regarder au-dessus de soi et se connecter à ce qu'il y a de plus grand que soi, on est sur Neptune. Et après tout ça, on est un peu plus vieux, un peu plus sage et on est capable de regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous, là où on avait peur, là où il y a nos hontes, nos tabous, notre rapport à la mort, et on est sur Pluton.
La lune noire est un point vide, tout nu, sans consistance, totalement invisible et qui n'intéresse pas grand monde. En voilà une bonne raison d'en parler. Une minorité à elle seule. À cet instant précis, vous êtes certainement perplexe sur l'importance de notre mission. Peut-être même, doutez-vous de poursuivre. Avez-vous déjà quitté inopinément ?
On va parler de la lune noire, de votre thème. Où se trouve-t-elle ? Regardez. Vous avez le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3. Il y a, je vous l'ai dit, 12 secteurs dans un thème. 12
D'accord.
maisons, parce qu'il y a 12 signes. Votre lune noire, le jour de votre naissance, se trouve à 21 degrés 15 du bélier. Juste avant, à quelques degrés qui la précèdent, nous avons Mercure. Juste après la lune noire, nous avons Vénus. Et après Vénus, nous avons Mars. Donc, 1, 2, 3, 4 éléments dans le bélier.
On sait que la Lune tourne autour de la Terre, ça c'est pas un scoop. Elle tourne en faisant une ellipse, mais une ellipse très proche du cercle, en réalité. La définition astronomique de la Lune noire, c'est le second foyer de l'orbite de la Lune autour de la Terre. Le premier foyer étant bien sûr la Terre.
Et dans le thème d'une personne, la Lune noire, c'est une sorte de zone d'ombre. On dit qu'elle annihile l'énergie dans laquelle elle se trouve. Du coup, la Lune noire, c'est un peu notre rapport à notre monstre intérieur, en quelque sorte. Là où elle est intéressante, c'est qu'elle est elle aussi en mouvement tout le temps. Ce qui fait qu'à tout moment de notre vie, comme elle circule dans notre thème astral, comme elle passe sur nos différentes planètes, elle interroge partout où elle passe.
La lune noire, c'est quelque chose de plus ontologique. L'ontologie, c'est la science de l'être. Donc c'est quelque chose de plus essentiel pour la personne, de plus fondateur. Donc on n'est plus dans le cœur, on est dans la pure, claire lumière de la certitude intérieure. Et donc la lune noire, elle nous parle de ça dans le thème astrologique. C'est-à-dire, elle nous dit quel est ton vrai et ton seul désir. Et en même temps, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Qu'est-ce qui te porte le plus dans le monde des ombres, de l'angoisse, du sentiment d'inexistence, de l'anéantissement?
La lune noire, c'est un lieu de honte et d'interdit. C'est quand je regarde ça à l'intérieur de moi, je suis pris dans une terreur, je n'arrive pas à parler, c'est plus fort que moi.
La lune noire se situe justement là, c'est-à-dire dans ce point de révélation et ce point de réveil. Puisque un être humain vit sur plusieurs plans de conscience. C'est-à-dire qu'il est à la fois dans une conscience corporelle, il vit sur un plan psychologique, et puis il vit sur un plan spirituel ou métaphysique. Et la lune noire parle de ce plan spirituel ou métaphysique. Mais d'une manière très personnelle pour l'être, et pas de manière universelle comme pourrait le faire Neptune avec les grandes envolées compassionnelles ou Uranus avec les grandes idées pour améliorer le monde. Là, c'est vraiment ce qui me concerne moi, personnellement, dans mon chemin évolutif.
Les planètes flirtent, elles sont côte à côte, voyez. Donc Mercure flirte avec la lune noire, qui flirte avec Vénus, qui flirte avec Mars, mais tous ensemble sont conjoints.
Et qu'est-ce qu'elles font tous ensemble?
Ah ben elles font beaucoup de choses. D'abord déjà, elles regardent en face. Qu'est-ce qu'il y a en face le Bélier? Regardez, à 180 degrés en face, on trouve...
La balance?
La balance. Donc Priape va se trouver à 21 degrés 15 de la balance, à 180 degrés de votre lune noire. C'est grâce à Priape qu'on va trouver comment la lune noire doit travailler. Comment est-ce qu'elle doit se dépasser. Il suit une logique d'antagonisme. C'est-à-dire que plus l'interdit décrété sur la lune noire est catégorique, plus Priape, qui est en face, s'affirmera avec force. Ah, tu es comme ça, mais tu peux être comme ça. C'est-à-dire que Priape et la lune noire étant en opposition, ils vont essayer de trouver un équilibre. Ils vont s'opposer, mais en même temps essayer de s'harmoniser.
On va se construire une maison sympathique dans le signe d'en face. Donc, autrement dit, on va se construire une personnalité en compensation à nos peurs les plus profondes. La conscience ne se construit que sur les peurs les plus profondes. Donc évidemment, ça a un aspect positif en termes de schéma d'évolution. Donc d'un point de vue astrologique, Priape, c'est ce lieu, ce signe astrologique où l'on va se reconstruire une personnalité. Nous sommes mis au défi de retrouver le trésor que cache notre âme, le joyau qui est au cœur du lotus, en rencontrant le dragon qui garde la porte d'accès à ce joyau-là.
Quand j'ai monté ce thème, Camille, je me suis demandé si la personne était créatrice, journaliste d'investigation, et si elle ne faisait pas un travail sur le corps, les corps, tous les corps. L'écriture avec Mercure, l'écriture des scénarii, la peau, parce que Vénus peut représenter la peau, et la sexualité. Et de ce fait, cette lune noire conjointe, donc qui flirte côte à côte avec Mercure, Vénus, Mars, je me suis demandé, quid de votre sexualité? Qu'avez-vous découvert sur votre sexualité? Est-ce qu'il n'y aurait pas une préférence vers le même sexe plutôt que vers le sexe opposé? Parce qu'il y a une recherche également sur le corps, tous les corps. Si je tire un trait entre Jupiter et Mercure, vous voyez, un trait bleu, ils sont séparés de 60 degrés et des poussières. Ça s'appelle un sextile. C'est un trait plutôt positif. Donc, rétablir la justice par rapport au corps, par rapport à la sexualité, via la création. Dans ce thème-là, votre manque, parce que la lune noire exprime le lieu du manque, donc de la réparation, votre manque sera réglé par la transgression, donc par marche à travers, marche au-delà.
chacun d'entre nous est porteur d'un ou de plusieurs mythes fondateurs. Alors, on peut se référer à la tradition grecque, hein, mythe de Prométhée, mythe d'Icare, mythe de Faust qui n'est pas grec, mythe de Narcisse, etc. On en retrouve dans des contes également. Ces grandes images vont résonner profondément avec la psyché de la personne et réveiller en elle quelque chose qui est de l'ordre de « Ah, c'est ça qui m'appelle ».
Là où la lune noire se trouve, il y a toujours une blessure. Dans cette blessure, parfois, on n'en a pas conscience. Donc c'est un endroit qu'il faudra travailler, ciseler, comprendre et peut-être même parfois conscientiser.
Connaissez la position de votre lune noire le jour de votre naissance, je suis épatée d'emblée et je m'incline. Si votre envie d'introspection n'est jamais allée aussi loin, il n'est pas trop tard pour la découvrir. Calculez-la et suivons-la désormais dans un voyage à 360 degrés autour du zodiaque. Lune noire en bélier.
Dans le bélier, dans l'idéal, on est dans la première énergie du zodiaque. Donc on est dans du feu, on est dans la graine qui est en train de lutter pour émerger. On est dans tous les processus un peu de naissance. Dans cette énergie mobilisée. Pour naître. Pour prendre sa place.
Le mythe fondateur, c'est un idéal secret de conquérance dans le côté « je suis celui qui, par la force de mon énergie, la force de mon combat, apporte plus de justice et de vérité au monde. » Mais évidemment, l'être s'étant progressivement éloigné de l'archétype et finalement de guerrier pacifique, c'est devenu un soudard qui simplement jouissait de la violence. Donc la souffrance qui est derrière cette lune noire bélier, c'est une souffrance qui est liée à la peur de la violence. Alors du coup, elle va filer dans le signe d'en face, à savoir la balance. Ce point qu'on appelle priap en astrologie. Qu'est-ce qui va se passer dans la balance? C'est le sens de l'accueil, c'est le sens esthétique, c'est le fait d'être dans l'écoute par rapport aux autres. Donc, c'est des gens qui vont tout faire pour effacer ces mémoires du guerrier qui a dit à un moment ou à un autre, qui même me suivent, je n'en fais qu'à ma tête. C'est juste une attitude qui va nous protéger de nos angoisses les plus profondes et donc en même temps, par ricochet, de notre mythe fondateur. Donc à un moment, il va falloir revenir vers ce mythe fondateur. On va, par exemple, développer de la haute couture, parce que quand on fait de la haute couture, eh bien, on est à la fois dans le côté esthétique du vêtement, mais aussi dans une manière de retravailler l'épée sous forme de l'aiguille. Ou on va faire de l'acupuncture, ou de la cuisine, c'est-à-dire on va retravailler des techniques qui nous permettent de relier à la fois l'esthétique, l'harmonie, la beauté d'un plat et le couteau.
Lune noire en taureau.
C'est la force tranquille, c'est-à-dire c'est celui qui est dans la puissance de son incarnation et qui avance lentement, sûrement, et qui atteint toujours ce but. Le lieu de chute va se placer dans le champ de l'obstination, c'est-à-dire j'ai refusé de changer. Je me suis installé comme rentier ou rentière à un moment dans mon existence et j'ai refusé de changer. Donc ici, il y a deux lieux de souffrance. Le premier lieu de souffrance, c'est il y a quelque chose en moi qui est blessé du côté des possessions financières et de l'argent. Donc il y a quelque chose qui dit, soit je refuse de posséder l'argent et quelque chose de sale que je m'efforce de dilapider parce que ça me paraît dangereux, tout en ayant la nostalgie du château qui n'était pas à l'époque en Espagne. Donc c'est cette ambiguïté par rapport à l'argent. Et un autre lieu de blessure, c'est les cinq sens. C'est parce qu'ils ont entraîné lascivité, paresse, endormissement, etc.
Ce qui peut être un pas vers la résilience, ça va être tout ce qui remet dans le corps. ce qui est du soin, ce qui est du massage, ce qui est du s'enrouler dans un pilou chez soi, près du feu, et juste se sentir bien, d'être là, présent dans son corps. Le travail sur les sens, sur le goût, sur l'odorat, sur qu'est-ce que j'aime, comment je goûte, comme se redécouvrir soi. Tout le travail sur le tabou de l'argent. Bon, bien sûr, après, adapté selon chaque personne.
Lune noire en Gémeaux.
La grande quête du Gémeaux, c'est une quête de connaissance. La lune noire Gémeaux se rêve comme un grand vulgarisateur, c'est-à-dire celui qui est capable de capter des mots, de les mettre ensemble et de les transmettre par sa brillante perception des idées. C'est un transmetteur de connaissances, c'est un vulgarisateur, un accoucheur d'âme, un accoucheur d'idées. Et le lieu de souffrance, c'est le mensonge. Du coup, il ne va plus supporter les gens qui jouent avec les mots, qui trichent, qui sont dans les demi-mesures, etc. Donc, le lieu de souffrance d'une lune noire en Gémeaux, c'est qu'on ne soit plus écouté dans ce qu'on dit. Et donc, du coup, c'est souvent des gens qui sont soit dans la logorée verbale et qui parlent en permanence pour être sûr qu'ils soient bien compris, mais qui, en même temps, ont tellement de choses à dire qu'on finit par plus les écouter parce qu'ils envahissent le paysage. Et donc, du coup, ça va les rentrer dans une forme de mutisme. Le Priape en Sagittaire, donc le signe opposé aux Gémeaux, la personnalité va se construire sur la confiance en l'avenir. Je développe des visions d'ensemble, je prends les choses d'une manière plus générale et plus synthétique pour ne pas me perdre dans la folie des mots.
Les voies de retournement, les voies thérapeutiques par rapport à ça, ça va être... En général, à la fois ce qui est de l'ordre du théâtre, de l'improvisation, arrêter de vouloir que ce qui sort de nous soit forcément des grands discours pleins de sens et lourds, apprendre à juste dire quelque chose en l'instant parce que c'est là, parce qu'on a envie, sans réfléchir pendant 1000 ans.
Lune noire en Cancer.
Le mythe qui habite la lune noire Cancer, c'est le mythe de la grande mère, mais la grande mère au sens de la mère de famille qui s'occupe de ses enfants et qui pense-t-elle pendant longtemps, nul autre qu'elle ne sait si bien s'en occuper, leur donner des mets sucrés et finalement les enfermer dans une prison au mur de miel. Donc, évidemment, la souffrance de cette mère idéale, c'est des ruptures familiales. C'est le fait qu'elle a tellement donné, elle s'est tellement dévouée au nom de sa vérité intérieure à sa famille, et elle a fait tellement de sacrifices et tellement d'efforts, qu'un jour, tout ça, ça casse et elle ne comprend pas pourquoi. Donc, sa souffrance, ce sentiment d'injustice qui l'habite, c'est mort d'enfant, rupture du foyer, des choses comme ça, très souvent. Donc après, une fois qu'on a vu ça, le foyer, la famille, le rapport à la mère, tout ça est devenu extrêmement douloureux et pathologique. Donc il y a un rejet du féminin, il y a un rejet de la mère, il y a un rejet du rapport aux enfants, et on va se construire sur Priape en Capricorne. Le Capricorne, c'est Saturne. Le Capricorne, c'est la loi, c'est la rigueur. Donc on va se construire sur une forme de responsabilité, bien, on va dire, intégrée dans le monde. Et on va appliquer la loi, que ce soit sur soi-même ou la loi sociale.
Pour sortir de là, le retournement, sur le plan thérapeutique, ça va être le travail sur la mère, le travail sur la naissance, les travaux de type watsu en eau chaude, de bercement, de douceur, ce genre de choses. Apprendre à devenir sa propre mère pour soi. Apprendre à être dans la douceur pour soi.
La lune noire est aussi appelée Lilith parce que Lilith était la déesse de l'ombre. C'est la grande déesse, mais aussi la sorcière libre et indomptable, la force pure et sauvage de la licorne, ou encore la verticale exigence de la femme initiatrice. En effet, selon la Kabbale, Lilith serait la première femme d'Adam, mais, refusant sa domination, elle aurait été chassée de l'Éden. C'est alors que Dieu aurait créé Ève à partir de la côte d'Adam, la condamnant ainsi à la docilité. Lilith n'aura ensuite de cesse de se venger et sera punie pour cela. Lilith est une femme libre, dont c'est aussi, de mon point de vue, dans le thème astrologique, une liberté peut-être que l'on n'ose pas s'attribuer et qu'il faut oser s'attribuer.
Une deuxième chose, c'est qu'en hébreu, Lilith, c'est constitué de trois lettres. Ça se dit Lamed Yod, Lamed Yod, Tav. Lamed, c'est l'aiguillon à bœuf. Yod, c'est le germe sacré. Tav, c'est l'accomplissement. Ce qui fait que Lilith, ce qu'elle dit, elle dit « Va vers toi-même ». Parce que le germe sacré, c'est ce dont on est porteur. C'est le germe de l'homme. « Va vers toi-même et accomplis-toi ». Donc on est encore dans cette histoire de conscience, on est encore dans cette histoire de ne pas s'endormir, de rester en éveil, d'aller voir, de mettre de la profondeur dans notre être, dans nos actions.
Lune noire Lion, on a des images d'êtres charismatiques, d'êtres rayonnants. À un moment donné de notre histoire, de vie intérieure, on va dire, encore une fois, c'est du récit, on a quelqu'un qui est dans l'authenticité de ce rayonnement personnel, qui est admiré par tous et qui est capable, par sa seule présence, de motiver les foules ou d'attirer les regards sur lui. Évidemment, le processus de chute se mettant en place, le lieu de souffrance, ça va être « je ne me donne plus le droit de prendre la première place ». Car cette première place, à un moment ou à un autre, m'a coûté cher à cause de mon orgueil qui a voulu que je me mette en avant dans des endroits où je n'avais pas lieu d'être. Donc pour résoudre ce fameux dilemme entre le « je prends la première place et je n'existe pas », on va filer en Verseau en face. Que sait bien faire un Priape Verseau ? Il sait être attentif aux autres, il sait être dans le social tout en gardant son individualité. Il sait proposer des solutions un peu novatrices et révolutionnaires, mais pas trop, parce que c'est quand même un Priape. Il a cette habileté et cette capacité de faire fonctionner les groupes ou d'être lui-même dans partie prenante des groupes. Donc, au fond, c'est une manière de participer au monde dans l'effacement, tout en retrouvant quelque part une forme de reconnaissance.
Lune noire en Vierge.
Ce qui habite la lune noire en Vierge, c'est un absolu de pureté et de justesse. Parce que je suis en contact avec la pureté, je sais exactement l'acte juste et l'attitude juste à poser pour que le monde soit plus dans sa vérité. Robespierre avait une lune en Vierge, donc créateur des droits de l'homme avec Saint-Just. Mais évidemment, il a vécu la chute, c'est-à-dire à force d'être en quête de la justesse, il est devenu profondément injuste, il a coupé la tête de tout le monde. Donc, on ne se croit pas capable de comprendre et d'apprendre, alors que notre seul désir, c'est un absolu de rationalité. Freud avait une lune noire en Vierge. Donc, à cause de toute cette rigidité intellectuelle qui a été construite pour le meilleur qui a abouti au pire, on va affiner en poisson. Donc, du coup, le poisson, lui, il va s'ouvrir au flux. On va se construire comme une personnalité tolérante, ouverte à tout le monde, sensible à la présence du divin et du souffle. Donc on va, au fond, se construire sur une attitude d'ouverture, alors qu'on est intérieurement dans une psychologie de la précision. On va se construire sur une attitude de télescope, alors qu'on est un microscope.
On est ici chez des personnes qui vont générer des vécus d'écrasement, de petitesse. Le retournement pour ces personnes-là, il est dans l'humour. Alors c'est vrai pour toutes les lunes noires, mais dans cette lune noire particulièrement. Apprendre à rire de soi, apprendre à sortir de la succession des situations qui nous mettent en état de victimes des autres et de nous-mêmes, avec de l'humour, avec du sourire intérieur.
Lune noire en balance.
La grande question, c'est qu'est-ce que c'est qu'aimer ? Qu'est-ce que c'est qu'une vraie relation de couple ? C'est-à-dire, elle pensait que du fait de sa beauté physique, de sa beauté d'âme, il suffisait de la regarder pour savoir ce que voulait dire le verbe aimer. Mais évidemment, on voit bien que dans ces conditions, tout ça, ça a fini par s'écrouler et elle s'est laissée vivre sur ses propres dons de séduction, de culture et de beauté. Et du coup, à un certain moment de son histoire, la beauté est devenue un lieu de chute. Et l'amour est devenu une grande question qui n'a pas trouvé sa réponse. Donc le lieu de souffrance d'une lune noire en balance, c'est la peur du rejet dans la relation amoureuse. Et en même temps, elle est tellement exigeante par rapport au fait que la relation de couple doit être parfaite, que c'est très difficile de la mettre en place dans la vie ordinaire. Parce que c'est son lieu de non-concession, de couple idéal. Donc du coup, pour ne plus se laisser enfermer dans cette dépendance au regard des autres au nom de l'amour, elle va filer en bélier en face. Or le bélier, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va construire une personnalité active, voire hyperactive ici, indépendante, capable de prendre ses propres initiatives, sans cesse en train de développer de nouveaux projets. Donc il va tout faire, au fond, pour lutter contre cette lascivité dangereuse de la lune noire balance.
Lune noire en scorpion.
La grande quête d'une lune noire scorpion, c'est quelle est la nature des mondes invisibles. C'est un chaman, c'est un magicien. Il rêve, au fond, de connaître les secrets de la vie et de la mort, et il a été sans doute capable, dans des vies antérieures, dans des anciennes mémoires, de diriger, voire de manipuler la sexualité pour faire connaître l'extase à ses compagnons ou compagnes. Alors bien sûr, on imagine facilement le lieu de chute hein, qui va toucher tout ce qui est de l'ordre de la manipulation. Donc à un moment de son histoire, il a utilisé sa psychologie qui permet de percer immédiatement le mystère de qui est l'autre pour le manipuler et pour atteindre à ses propres fins de jouissance et de pouvoir. Donc du coup, l'angoisse d'une lune noire scorpion sera la peur d'être manipulé. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Mais on file en taureau. Ça veut dire s'appuyer sur le bon sens pour échapper au monde du mystère. Donc du coup, c'est des structures psychologiques qui vont chercher à se stabiliser matériellement, en tout cas à se rassurer dans le bon sens et dans la sécurité matérielle. Jusqu'au jour, évidemment, où on pourra revenir scorpion en incarnant dans une œuvre de beauté les forces invisibles dont on a une connaissance si fine et si précise.
En tout cas, les lunes noires en scorpion, dans le retournement, c'est la lune noire du thérapeute. Il y a une capacité à comprendre le rythme de la vie, à comprendre ce qui se passe pour l'autre, à être capable d'encaisser quand il se passe quelque chose de difficile pour les autres, et à être présent et être enraciné, qui est la plus forte de tout le zodiaque.
Je pourrais jouer aux devinettes pour connaître votre signe, mais c'est un peu facile car je vois d'ici vos mains entrouvertes. Les miennes sont froides et moites, la paume allongée et pleine de petites ramifications brisées de part et d'autre. Mais rien d'étonnant puisque je suis neptunienne de jour comme de nuit. C'est joyeux de considérer la paume de sa main comme une carte du ciel portative où tout y est. Les personnes qui ont un signe de terre, taureau, vierge et capricorne, reconnaîtront difficilement que leurs paumes sont carrées et dures, les doigts courts et la main épaisse aux lignes fortement marquées. Les signes d'air, gémeaux, balance et verseau, pourront noter toutefois que si leur paume est carrée également, leurs doigts sont légèrement plus longs que leurs paumes, leurs mains plus chaudes et plus douces au toucher. Un sourire esquissé et avec l'audace de bien vouloir suivre l'aventure, les signes de feu, bélier, lion et sagittaire, ne pourront pas s'empêcher de comparer leurs mains fermes, chaudes et élastiques, dont la paume allongée dévoile les lignes rougies à en faire pâlir les mains d'eau, plus froides et plus molles, celles des cancers, des scorpions et des poissons. C'est si intime d'ouvrir la main et rien ne vous y oblige. Au milieu des lignes, des marques dermiques, des empreintes de la forme des doigts, des ongles, des monts diverses, des jonctures, se cache sûrement entre les plis votre lune noire, la vengeance de Lilith. À notre insu et aux yeux de tous, notre plus grand tabou est peut-être quelque part sous la paume. Comment savoir ? Lune noire en Sagittaire.
Le grand apport d'une lune noire Sagittaire, c'est répondre à la question « qu'est-ce que Dieu ?» Dieu ou le monde du sens, ici c'est la même chose. Donc c'est un philosophe, c'est quelqu'un qui, par sa sagesse, éclaire les situations les plus compliquées. Son lieu de souffrance, c'est la peur de l'espace. Parce que évidemment, celui qui a cette connaissance ample, cette vision ample, à un moment donné a chuté. Pourquoi il a chuté ? Parce qu'il s'est fait gourou. Et donc, il est devenu foncièrement insupportable parce qu'il voulait convaincre tout le monde de sa vision du monde, de sa religion, de sa philosophie. Bref, tout le monde l'envoyait balader. Donc, le grand espace conceptuel, psychique et social auquel il aspirait est devenu impossible. Et donc sa souffrance, c'est de ne pas être connu socialement, c'est de ne pas pouvoir prendre de l'espace dans une pièce. Donc ce problème par rapport à l'espace dans tous les sens du terme, espace social, espace philosophique, espace physique. Du coup, on va filer sur Priape, en Gémeaux. Donc ici, on va apprendre plein de choses, puisque les Gémeaux, c'est le lieu de la curiosité intellectuelle. Donc on va se présenter comme une encyclopédie sur pattes. Curiosité intellectuelle, tolérance, capacité de relier les contraires en termes d'idées, en termes de pensées. Tout ça, évidemment, pour nous permettre de réactualiser notre vraie question, quel est le sens de la vie ?
Et c'est la lune noire du sens. C'est la lune noire où on est le plus capable de mettre du sens, de mettre de la profondeur.
Lune noire en Capricorne.
Ah, le Capricorne. C'est une quête de sagesse. On voudrait que son corps, que son cœur, que ses tripes soient parfaitement alignés pour recevoir les influx du sacré. Sa grande quête, c'est la métamorphose du corps. Donc bien sûr, il va méditer longtemps au sommet de sa montagne, et puis le jour, quand il descend dans la vallée, il y a un enfant qui lui marche sur le pied et il gueule comme un putois. il ne supporte pas qu'on ne reconnaisse pas sa hauteur. Donc il y a un péché d'orgueil là-dedans. Donc le lieu de souffrance, c'est un sentiment de rejet. C'est une souffrance par rapport au père. Le père incarne l'image du vieux sage, qui est devenu inaccessible. Donc il y a une souffrance par rapport à la loi aussi. C'est-à-dire, il peut y avoir un sentiment d'injustice par rapport à des règles, des règlements qui nous ont été imposés de l'extérieur. On ne supporte pas l'administration, les papiers administratifs. Donc, prière par cancer, on se construit sur sa capacité à prendre soin des autres, et notamment ceux qui sont dans une forme d'enfance psychologique, qui ont besoin d'être aidés, d'être soutenus, etc. Mais au fond, on ne rêve que de quoi? On ne rêve que de rigueur, on ne rêve que de solitude au sommet de la montagne. Et on va développer ce côté, entre guillemets, bonne mère, pour soulager cette blessure de solitude qui nous hante.
Dans la lune noire au Capricorne, le retournement pour cette lune noire-là, il est dans le devenir à son tour une structure pour les autres. Comment est-ce que moi, je vais transmettre aux autres? Comment est-ce que moi, je vais faire respecter la règle? Parce que c'est quelque chose d'important. Et parce que je sais à quel point c'est désorientant de ne pas l'avoir reçu, je peux le donner.
Lune noire en Verseau. Uranus, c'est la planète qui tourne pas comme les autres. Et c'est complètement archétype du Verseau. Le Verseau, c'est le signe qui n'est pas comme les autres. C'est le signe de la liberté, de la rébellion, de la capacité à être en révolution, en ébullition. C'est aussi le signe du vilain petit canard, un petit peu, parce que à force de vouloir être complètement différent des autres, ben, je ne suis pas comme les autres.
Donc une lune noire en Verseau, c'est Louise Michel. C'est soit le révolutionnaire ou la révolutionnaire qui revendique de manière non négociable la liberté, l'indépendance, la plus grande fraternité entre les humains, tout en se sentant elle-même profondément différent. Ou, deuxième cas de figure, il y a les Verseaux saturniens. Donc celui ou celle qui va rêver d'un groupe idéal et d'une conscience partagée entre les membres du groupe. Mais évidemment, le lieu de chute, ça va être le sentiment de ne pas être compris dans les innovations et les inventions qu'on a voulu apporter au monde. Le sentiment d'être exclu parce qu'on a 300 ans d'avance et qu'on a horreur d'avoir 5 minutes de retard. C'est le mythe du progrès qui est derrière le signe du Verseau. Donc du coup, on va être rejeté à cause de son originalité. Donc on va filer en lion, le signe opposé, c'est au prière. Qu'est-ce qu'on va faire en lion? Ben, on va faire le lion, c'est-à-dire on va développer le rayonnement personnel, on va développer la conscience de sa propre valeur, on va être quelqu'un en qui les autres pourront avoir toute confiance et qui ne va jamais surprendre, puisque évidemment le fait de surprendre c'est le lieu de souffrance. Donc parce que les gens ont confiance en moi, je vais pouvoir réexprimer petit à petit les inventions qui me tiennent à cœur et l'esprit de lumière qui m'habite.
Lune noire en Poisson.
La grande quête d'une lune noire poisson, c'est une quête mystique. C'est-à-dire, c'est d'être dans une fusion, dans une communion, dans un accueil sans limite à la présence du sacré. Thérèse d'Avila, je crois, avait une lune noire poisson. Un certain nombre de saints ont cette lune noire, bien sûr. Et évidemment, le risque encouru dans cette histoire, c'est quoi? C'est un risque de perte de soi. C'est le risque de ne plus du tout savoir qui on est à force de vouloir être tout. Il y a des mémoires de folie parce qu'on s'est laissé envahir par des choses qui n'auraient pas dû nous envahir. Car évidemment, dans ces mondes archétypaux, il n'y a pas que des forces de lumière, il y a aussi des forces d'ombre. le lieu de souffrance, c'est un lieu de... On est devenu le martyr ou exploité par quelqu'un ou quelque chose. Donc on va filer en vierge. La vierge, elle va faire quoi? Elle va essayer de soigner cette souffrance d'inexistence vécue dans le signe opposé. On va développer des compétences en analyse, en rigueur intellectuelle. Bref, on va mettre de l'ordre dans le chaos et de la pensée dans l'immensité du ressenti. Un jour, on va réussir la synthèse poisson-vierge. Donc on va toujours se questionner, être dans cet immense ressenti du divin. Mais on arrivera à un moment ou à un autre à mettre des mots dessus, à l'aide de la logique. Donc le grand travail dans cet axe, c'est comment donner des mots à quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible.
Et le retournement de cette lune noire, c'est trouver sa propre mystique. Quels sont mes rituels ? Qu'est-ce qui me parle à moi ? Ça peut être d'aller parler aux arbres, comme de parler aux elfes, comme de parler à Dieu, si c'est Dieu qui nous inspire. Mais moi, pour moi, parce que ça me parle et pas parce que ça m'aura été donné par l'extérieur. Dans une lune noire qui n'est pas la sienne, parce qu'effectivement c'est notre signe, ou parce que c'est notre karma, ou notre dharma, ou qu'est-ce que j'en sais, mais la sensation est pas la même. Quand c'est notre lune noire, il y a vraiment un vécu de honte et de zone où on n'a pas envie d'aller, quoi. C'est très spécifique. C'est intime quand même. C'est pas forcément les choses qu'on a le plus en conscience au quotidien. Parce que quand on nous invite à aller voir les zones de souffrance, la souffrance, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de voir, c'est quelque chose qui fait mal, c'est quelque chose qui déboussole, c'est quelque chose de honteux qu'on ne veut pas voir. Mais en fait, le fait de pouvoir regarder ça, c'est quelque chose de magnifique. Peut-être on peut en faire quelque chose et peut-être on peut se responsabiliser et qu'on ne sera pas une victime de nos blessures toute notre vie, quoi.
Intéressant de voir dans toutes ces structures, c'est que ce qu'on paraît dans la vie sociale, professionnelle, normale, c'est exactement le contraire de ce à quoi on aspire du point de vue de notre âme. Mais évidemment, c'est un processus nécessaire de construction pour retourner ensuite, bien sûr, à la claire lumière que l'on porte au fond de soi.
On va toucher un point délicat et on va se dire, mais là maintenant j'ai du travail à faire. Eh bien je vais travailler et je vais transformer tout ça. On va vers la transcendance. On se transforme. Après, faut-il entendre les messages que la lune noire a à nous dire ? Là, c'est autre chose. Parce qu'elle n'est pas toujours très tendre, la lune noire.
Quelque part, il n'y a pas de solution pour la lune noire. Il y a pas... Il y a des pistes, il y a comment mettre de la conscience, comment se réapproprier les choses, mais il n'y a pas de solution, parce que la lune noire, c'est pas un problème. Si on n'avait pas de manque, on bougerait pas. C'est parce qu'on a un manque que tout d'un coup, il y a un désir qui fait qu'on se met en route, qui fait qu'on se met en action. C'est... S'il n'y avait pas cet interdit-là, s'il n'y avait pas ce manque-là, on n'aurait aucune raison de sortir de notre confort, quel qu'il soit. Thank you.
La lune noire représente le nœud originel autour duquel se développe toute notre personnalité. Elle remonte au commencement, comme Lilith. Elle est le fondement, la source du vécu heureux et malheureux. L'attraction due à la vision de l'absolu qu'elle exerce dès le début nous englue dans l'expérience de la réalité, nous obligeant ainsi à la connaître dans le meilleur et le pire.
Un jour, j'imaginais les tâches ménagères. Si la poussière se déposait aussi dans l'énergie d'une maison, quelle angoisse! Qui s'occuperait du plan énergétique de ma chambre pendant que je fais le lit? Une double tâche qui me condamnerait ainsi à faire la poussière des mondes invisibles. Est-ce ma difficulté à affronter le ménage qui me rend si passionnée des mondes invisibles? Est-ce ma claustrophobie qui me pousse à vouloir sortir de mon corps? Est-ce l'influence d'Uranus dans mon thème qui m'invite à regarder cette lune noire? Et vous, que vous raconte votre lune noire? La lune noire. Une création de Camille Ducellier, réalisée par Nathalie Salle. Composition originale, Isabelle Morichaud. Prise de son, mixage, Guillaume Ledu. Merci à Anne-Laure Théa, Christina Canet et Luc Biget. Coordination, Inès De Bruyne, Irène Omelianenko. Création on air 2016.
Vous écoutez Création On Air. Demain, rendez-vous à 23h pour un voyage avec le GRM INA dans les expériences radiophoniques de Pierre Schaeffer pour le Studio d'essai. Une proposition de Stéphane Bonnefoy et Alexandre Bazin. Il est temps de retrouver Philippe Garbi pour les Nuits de France Culture.